Mot-clé concept 10, présence, conscience et fonctionnement mental. Présence, conscience et fonctionnement mental, c'est quand ça illustre une vision. En fait, ce n'est pas vraiment un mot-clé, mais une image de structure et de pensée dans ma conception du fonctionnement mental que je vais illustrer avec la notion principale pour moi qui me sert à élaborer de construction, à savoir l'image, et l'image comme image mentale. Il faut que j'explique ce que je veux dire, ce que je veux faire et comment j'ai imaginé de concevoir pour expliquer, m'expliquer. Quand je parle de vision, je parle d'abord en termes d'image mentale. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de complètement fixé. Il est intéressant de penser systématisé comment on pense en termes d'image mentale, ce qui représente pour moi quelque chose qui est de l'ordre d'une codification. On peut le systématiser en le conventionnant, c'est-à-dire en tenant pour principe que c'est comme ça qu'on pense et qu'on a besoin de penser, comme on aurait besoin aussi bien d'exprimer, de communiquer. C'est-à-dire en convenant dans cette nécessité de convenir et de construire absolument du principe que tout ce que l'on pense et dit se fait en termes d'image, d'image mentale, si on veut le qualifier parce qu'on a besoin de cet adjectif et de ce qualificatif. Et que ce sont différents types d'images mentales qui sont en jeu. Mais là, on va tomber sur un problème intéressant, de type complexe, contradiction ou de paradoxe, avec une forme de bascule. À savoir que quand je pense, par exemple, je ne sais pas que je pense et parle en termes d'image mentale. Je ne me le dis pas non plus, mais je le fais directement. Je ne me pose pas la question. Et même si je me dis un certain nombre de choses, je pense que je parle, que je pense, que je suis en train d'essayer d'expliquer quelque chose, que je suis en direct, eh bien, il faut que je maintienne ce paradoxe et cette analyse, au-delà de la capacité de double conscience ou d'analyse ou analytique du moment. C'est-à-dire, en cet état de forme de naïveté ou de crédulité en direct. Et cependant, sans que cela ne puisse engager des capacités de structuration. Et non pas que je me fie aux mots, communauté, organisme de pensée, ou comme leur substitut, ou tenant lieu. Tout ce que je viens de dire, je l'ai pensé en termes d'unité de temps et de pensée, comme des formes de corps, comme des formes d'organite ou d'organisme. Et là aussi, c'est important à considérer car ce ne l'est pas souvent ainsi. Et c'est là une chose aussi remarquable à tenir et retenir comme modèle de modèle. Et en soi, comme concept et aussi comme dimension sensorielle et de rapport à soi ou d'indice de sa propre présence et des modes de sa conscience. Je ne sais pas si cela peut intéresser quelqu'un qui est forcément autre. Je ne peux le savoir sans présomption à l'avance. Mais c'est là où le paradoxe est de plus en plus présent et en retour, s'accentuant comme des unités de concept et de réalité de temps qui se font sentir. À savoir que ce grand panneau image et pensée que je viens de me tenir là et que je viens de communiquer en quelque sorte, mais d'abord que je communique pour le porter au dehors et que j'ai en partie exporté, donc est objectivé comme des unités de pensée, de concept, de langage, de présence, de conception et aussi des unités implicitement de temps, ce qui n'est pas immédiatement apparent, sauf le temps qu'on peut mettre à éventuellement bien vouloir écouter ce que je message. Eh bien, cela en fait se retourne d'abord vers moi, presque contre moi, je dirais. Je veux dire par là que c'est moi qui, dans mon fonctionnement de pensée conceptuelle, je dirais transcriptuelle, dans ma pensée de distance, d'avoir besoin de mettre devant moi et dans le loin, que c'est moi dans ma pensée conceptuelle image et forme de conscience, dans ma forme de tableau de bord, dans cette forme de miroir et de retour premier fondamental, qui ai besoin de ce retour de conscience et de présence. Et cela ne se fait pas n'importe comment, mais a aussi un rapport avec les circonstances et je dirais une certaine discipline des circonstances. Je dois m'appliquer ce retour de présence et de conscience de ce qui est en mode de retour, sensation, image, image-message et image-miroir. Voilà, je pense que c'est important à exprimer et à s'en rendre compte. Je veux dire par là que ce retour en soi, qui est une forme de constante, en mode de perception, conception, image, compréhension de son fonctionnement, sa conscience et son expérience image, sa sensation et perception, est un retour implicite, image et message. Et ça, je pense qu'il faut le souligner. En fait, c'est comme quelque chose qui correspond à un mouvement et comme une sensation de corps qui vous revient en retour. Et que c'est par ce retour implicite, en mode de flux, de flot, ou d'existence constante, que j'ai, par ailleurs, par le média de tout ce que permet mon corps, que j'ai un sentiment existentiel. Sentiment existentiel, en fait, qui implicitement me dit je et me parle, et par mes perceptions, et par l'entremise de mes sensations de présence. Mais comme je l'ai déjà exprimé, ce n'est pas ainsi que je peux parler, m'ancrer et me parler et au travers de cette conscience existentielle. Je me retrouve là devant une grande difficulté, comme devant un poste d'observation, et que je vais essayer de mettre en forme pour l'exprimer, qui est encore une manière de le pousser plus loin et de l'exporter, avec aussi son bénéfice de l'avoir réalisé dans une action, mais aussi dans une action qui implique de l'espace-temps. Ce qui veut dire qu'elle a besoin donc d'être mise en forme de conscience-image. Présence, conscience et fonctionnement mental, séquence 2. Conscience-image, comment je parle et suis parlé ou code de message. Alors, j'ai terminé sur la question de la mise en forme de conscience-image et de sa nécessité de façon un tout petit peu paradoxale pour terminer la séquence précédente et pour exprimer ce devant quoi une difficulté nous met éventuellement comme grande difficulté et qui pousse comme à formuler, exprimer. Je dois constater que je me parle et que je suis parlé, mais sous une forme particulière, qui est comme non dépendante de moi, et en tout cas pas directement. Cette forme est la façon d'être de conscience, de la conscience image. Conscience qui est d'abord un fait, et comme une réalité extérieure et de type matériel, avant que d'être un contenu de fait, de quelque chose. Et si je continue à m'exprimer selon ce terme, Et cette conscience implicite de conscience-image, je dois constater que la dite conscience est bien plus étendue que je ne peux l'imaginer. Et elle va me servir et elle me sert de cadre fondamental. Ne serait-ce que parce qu'elle m'implique dans différents états, d'une part, et différents états réalisés. Mais réalisés pas seulement en mode passif, mais réalisés en mode affirmation, présence, action et type d'action. Et d'abord, donc, réalisés dans mon corps ou au travers lui, ou par mon corps et son entier, et je suis en quelque sorte parlé ou parlé à partir de là, ou en relation à partir de cela. Il ne faut pas s'arrêter là, bien que ce soit perturbant et peu croyable, a priori, dans nos formes d'abstraction. Et de séquences de conscience limitée, car ce qu'il faut que je pose comme réalité, perception, image, est que je reçois des messages, différents types de messages, de mes états, à titre d'information. Et donc l'important est la manière dont je me situe comme décodant, décodeur. Et en ce sens, mes perceptions et types de perceptions venant du dehors, et liés au dehors, sont des messages importants et qui, d'une certaine manière, sont des successeurs à ma présence et mes types de présence, voire d'exposition. Et ces messages en soi, demandent à être analysés ou perçus dans mes formes de messages code et réception, en forme existentielle, et donc aussi selon mes modes et mes types de présence, et dans les types de présence à quoi je suis assigné ou exposé, c'est-à-dire ce qu'on nomme en général des situations. Cela est vrai pour les renseignements que donne le corps dans ses sensations, perceptions et manifestations propres, qui est un média absolument fondamental. Et la façon de les percevoir, de les recevoir, de les concevoir dans leur forme, leurs instantanées, leur synthèse. Le corps comme écran et comme média existentiel. On peut alors considérer le corps dans son entier comme un média et un média miroir tourné en fait vers le dehors et comme tourné vers le dehors à notre insu et nous permettant d'avoir et de nous constituer des images de présence, de proximité et d'environnement, et sans nous exclure de ce fait. Et c'est là encore un modèle à étudier, d'autant que ce miroir est distance et donne une idée ou une notion des distances et inversement des proximités et des types de proximités. Une notion des distances en forme, je dirais, physico-physique, et de traduction en mode sensoriel et en mode de sensation physique avec leur forme de dynamique propre. Mais nous pouvons aussi considérer le grand miroir que constitue le corps, comme dans son entier, et dans sa présence, dans une position qui nous constitue en quelque sorte de choses, de variantes, une ligne de front et, je dirais, une ligne de pose. Nous ne sommes pas au repos ou pas forcément, mais nous basculons dans notre activité mentale par le biais, par le média, de cette ligne de pause, hein, dans une activité mentale qui peut être intellectuelle dans sa vision, réalisation spécifiée ou spécialisée, ou une activité qui soit de type physique et mental coordonnée, localisé à un espace en rapport avec lui et en relation avec ce qu'il est. Nous sommes alors dans une attitude ou position d'ensemble que je caractériserais comme miroir-message ou œil-message. Et dans ce canal message, nous sommes en mode image, message-image-réception. Nous pouvons commenter ce que nous faisons de façon marmonnée ou comme on dit à voix basse ou même particulée et nos avancées, comme si nous récapitulions ce que nous avons fait, ce que nous devons faire, ce que nous faisons, et comme suivant une sorte de programme pour progresser au maximum de ce dernier. Et comme devant remplir une succession de tâches qui vont délimiter ce que nous avons à faire en mode temps dans cet espace. Tâches d'entretien, par exemple, ou en mode de devoir, en mode de commandement. À ce moment-là, nous parlons d'une certaine façon, dans une forme de retour de conscience involontaire miroir mental, que je ne commenterai pas là, mais qui a beaucoup d'implicite. Nous commentons en forme d'œil miroir, de caméra branchée retournée sur nous, et en forme de radicalisation du mode écran, qui double d'une certaine façon nos présences, nos attitudes, nos gestes, nos actions. Et donc aussi notre programme d'action de recherche, voire d'investigation, dans notre accompagnement ou notre gestion en quelque sorte interne et interniste de nos tâches et de nos actions. Nous pouvons alors constater que nous sommes mis à, en quelque sorte, la fenêtre, en mode exportation à notre façon, d'une fenêtre écran tendue comme devant nous et qui, de diverses façons, évolue avec nous, physiquement et mentalement. L'important est de pénétrer dans ces codes, ces conditions et d'en tenir compte. Présence, conscience et fonctionnement mental, séquence 3. Plan fixiste et déroulement des plans, évidemment fixiste. Ou je pourrais dire aussi fixation et conception des images mentales. Plan fixiste et conscience des images et des images mentales. Conscience et forme de conscience des réalisations. Et quand on parle d'image, ou quand on écoute, on entend image, on a très facilement envie de parler en termes de conte, comme s'il s'agissait d'une imagination et d'une fiction. Et ce n'est pas que ça, bien que c'est déjà beaucoup. Les conséquences de cette façon d'approcher, la conséquence est de constater à quel point nous sommes parlés. Nous sommes parlés, impliqués, même conçus, je dirais, mais en mode muet. Dans le silence, de la distance, des perceptions, des sensations et des actions. Et de pouvoir constater les modes de présence et leurs types, réalisés dans cette perspective et de cette conscience que je formule de l'approche et en termes d'approche. Et qui n'est pas qu'une conscience simple, immédiate, fixiste, d'évidence oculaire. Mais qui est et constitue une conscience de conscience, une conscience en rapport avec la qualité de ce qu'elle institue, représente et instaure, et qui est un médiateur fondamental, aussi bien pour les sensations que dans l'ordre de la connaissance. Et si on veut une conscience permettant de se rendre compte des choses, dans la proximité ou dans la distance, ou dans l'intermittence, et justement aussi dans l'absence des choses. Ce qui n'est pas si évident à faire comprendre ou à faire pratiquer, et notamment dans la réception et dans le rapatriement des données vers soi. Et comme une conscience qui fait qu'on voit des choses après les avoir formées un moment, ou donc en ayant fermé les yeux, par exemple, et on se réveille d'une forme d'endormissement. Voilà une sorte de modèle général en forme de conception image et conscience. On est là, alors de retour, sur l'émission des perceptions, des sensations et du message, mais on est là de retour sur l'émission des messages. Et on devra traiter les entrées. On ne peut les laisser livrer indéfiniment à elles-mêmes. Je dirais que nous sommes suivis par le rouleau de la conscience, de notre fonctionnement, qui prend sa dimension dans l'espace et le temps, ou fonction de conscience et d'esprit. Mais quel usage pouvons-nous en faire, ou en faisons-nous, dans le proche, ou dans le lointain, de ce rouleau de nos fonctionnements? Cette question n'est pas directement psychologique ou morale, car là, il faut passer par la question des régulations et des habitudes, qui en partie représentent une codification et une convention de régulation et une convention de pratique ou d'usage, dirais-je. Cependant, pour chercher, il faut des conventions, et je dirais des conventions plein pied, et pas seulement nez au vent ou je te parle comme on me pousse, dirais-je encore. Il faut des conventions en mode miroir et formulant et en capacité de formulation, c'est-à-dire quelque chose qui est capable d'assembler des morceaux de perception en forme stable. Ou encore, il faut être et rentrer en mode et rapport de décodage avec soi-même, et comme étant comme de l'autre côté de ses perceptions. Et c'est la base et le début des modèles. Il faut étudier et se mettre à étudier ce que vous faites et ce que vous étudiez. Et ne pas tomber dans la facilité de ce qu'on appelle, par exemple, le métalangage qui pourrait qualifier. Car cela devient une forme de code et de représentation image en implicite avec ses modes de présence et ses programmations. Car ce que vous étudiez, et comme vous n'êtes pas en rapport avec ce qui vous vient du dehors et comment vous le traitez, et rentre aussi en rapport avec vous, à sa manière de rentrer en rapport avec vous, ou d'y être. De la même façon que vous n'avez pas que des sensations de corps, de type contact, de type surface, de type proximité, de type approche, mais aussi des sensations de corps implicites, on pourrait encore dire innées, mais cela voudrait dire beaucoup plus que le mot. Ce sont là des capteurs d'informations et de sensations, et aussi des décodeurs. De là, à partir de là, je suis allé de plus en plus dans la façon dont j'observais, dont j'étais posté, dont je me postais, ce que j'observais et comment je le recevais dans ma façon d'être présent à la réception, à quelque chose. Et c'est en quoi il fallait construire ces formes et codes de langage, de réception et d'admission, et pas seulement de les parler pour en faire une sorte de psychologie personnelle et sociale. Tout cela peut paraître bien sensible ou compliqué, mais curieusement, on raccorde autrement par ce biais avec ce qui est de l'intellectuel et la façon de comprendre ou d'avoir besoin de comprendre et de rentrer en dialogue avec ce niveau ou un autre niveau de présence et de rapport, de conscience miroir, de présence comme à soi-même. on se met à pouvoir comprendre beaucoup plus largement qu'avec seulement la perception immédiate, sensorielle, ou les formes de l'entendement circonstanciel plus ou moins convenu. Et là, évidemment, il est tentant de décrire ces manières qui permettent, en quelque sorte, de réaliser des véritables sensations et des actions dans le fait de comprendre. Mot clé 10, séquence 4. Fixation du miroir des présences ou la présence dans la présence. En fait, il faut considérer que la présence est une coprésence au sein d'une série d'indications et de miroirs. Miroir qui, dans son grand principe de base, dessine un vis-à-vis et un face-à-face. Un face-à-face et un vis-à-vis, dirais-je. Mais on verra que les choses ne sont pas totalement symétriques ou réversibles. Et donc, face-à-face et vis-à-vis, comme émetteur de face-à-face et de présence. Comment examiner cela dans la réalité du fonctionnement mental, c'est-à-dire aussi le fixer, le figer, au moins relativement dans une conséquence de temps. Et vous allez voir que dans le tableau de cette fixation, de type image et représentation mentale et considération, qu'il est très difficile de formuler ce vis-à-vis et ce face-à-face comme étant quelque chose qui a comme une consistance de corps et de réalité, c'est-à-dire comme étant à la fois une image et une réalité. Ceci étant, nous allons être guidés dans cette impression physique vers le physique de ce que nous formulons et comment nous le formulons en tant qu'unité de conception et de temps. Et là, j'y insiste beaucoup car cette notion est très subtile et importante, unité de conception et de temps. Vous pouvez en faire l'expérience, qui est une sorte de disposition physico-mentale en mode d'exemple, comme fixation d'esprit et comme fixation d'une image de l'esprit dans le temps ou dans cette consistance qu'est le temps. Prenons comme modèle et comme exemple le fait même, à savoir que ce que je viens de dire et que je pense et qui me vient à l'esprit, cette notion de vis-à-vis ou de face-à-face, à quoi je tente de donner une forme de corps et de consistance et l'équivalent d'une perception d'une réalité sensible, et donc en termes de présence. Je peux en faire plusieurs choses. Je peux en faire un objet de description que je poursuivrai, comme en mode littéral, et comme pour lui-même et dans son suivi, sa prise d'idées et de considération. Je peux en faire aussi un objet de représentation et de pensée, puisque c'est un modèle et une sorte de schéma modèle et de représentation comme en soi, mais qui, de ce fait, se passerait, pour ainsi dire, de son expression, son explicitation dehors. C'est un modèle qui mériterait pleinement l'idée de paradigme, par exemple, qu'on emploie de façon systématique dans le langage parlé. C'est un modèle, une sorte de schéma modèle. Et là, cette notion de schéma modèle et modèle de schéma ou modèle de modèle est intéressante à examiner. Et si je pense en termes de modèle, là, ce modèle par lui-même, en tant que idée, et pas seulement comme considération d'une réalité, et me donne une induction, me donne comme un commandement, et il m'oblige à, en quelque sorte, effectuer, réaliser cette représentation. Celle-ci a sa traduction physique et sa traduction mentale. Et je ne peux directement en extraire ou pas n'importe comment. Soit je vais vers cette image mentale et je l'entérine dans mon esprit. Et là aussi, on a un codage qui doit tenir compte de la disposition de l'espace-temps dans une espèce de physique des réalités des images mentales. Et soit donc, il y a cette image mentale dans mon esprit, qui est comme physico-mentale, et je ne peux pas la traduire totalement ni pleinement. Soit je peux la traduire, mais si je la traduis comme si c'était en image et en impression externe que je veux donner, et pour lui donner des qualificatifs, des qualifiants ou des consistances, alors je peux lui donner une formulation, une trace de représentation que je vais préciser. Mais sinon, j'ai une autre dérivation corporelle et physique très intéressante que je vais indiquer et que j'ai pour ma part beaucoup travaillé, qui est le fait de la traduction sur un support, feuille de papier, un tracé, le tracé de la sensation qui est évoquée pendant la perception et la communication. Et il est remarquable que l'objet image aille se traduire dans son côté physique, carrément charnel, de perception et sensation, et dans ses formes qualitatives, aille se traduire comme une impression, comme un tracé, comme un dessin. Et cela, bien au-delà seulement du seul contenu de ce qui est recueilli. Voilà, ça évidemment c'est à explorer plus, mais je l'indique. Il me manque en fait pour exporter et traduire sur l'extérieur en position suffisamment consistante et stationnaire un troisième terme, comme pour rester bien localisé à ma place et dans mon esprit et me tenir bien sur cette perspective, mais en tant que solidité, en tant que position bien conçue. Car il faudrait alors que je pense nommément. Que je vois cela en perspective et pas simplement décrire le terme de perspective pour le penser comme un troisième terme. Et que du côté, cela me ramène en message du côté de chez moi ou de mon côté, à la fois corporel, physique et mental. Et là, je ne peux seulement le penser, il faut que je le traduise. Et si je ne le traduis pas, je me trouve comme face à une sorte de barrage, de blocage, d'impossibilité mentale et de limite, comme physico-mental, incarné à l'intérieur même de l'espace et de la réalité physique extérieure dans laquelle je me trouve. C'est-à-dire une limite dans la présence et dans la position de mon corps, de ma localisation et de ma pensée, de ma représentation en termes de pensée. Et donc, je me trouve face à cette impasse et cette image de blocage mental potentiel qui a ses fonctions et qui est très intéressant. Voilà, et donc je suis comme obligé aussi, à ce moment-là, par le regard, dans une fuite de temps temporelle et consistante, je suis comme obligé de regarder comme latéralement par-dessus mon épaule et comme physiquement obligé de regarder ce qui fuit dans le coin comme image et comme présence, même si je ne vois pas nommément un objet. Voilà, je crois que c'est intéressant d'avoir décrit à peu près correctement l'ensemble de ces données, cette perspective temporelle et cette perspective sensorielle. Ces différents plans de dérivation et de perspective. Et je vais essayer maintenant d'expliquer encore un peu plus pourquoi. Présence, conscience et fonctionnement mental. Séquence 5. Impasse perspective en mode frontal. On ne peut traduire en perspective et être en même temps de son côté. C'est une question de constance et de temps. Le temps formulant en soi un quantum d'énergie et d'image. Et de temps ou de durée, et se formulant par ces moyens comme en termes d'unité de conscience et de langage. Et ce qu'on peut traduire par deux termes descriptifs. Seulement, comme je l'ai évoqué, et qualifiant. On pourrait le penser, ce qu'on peut, ne peut traduire plus et mieux, en mode corps, physique, unité ou idée, on pourrait le penser, le réussir par l'entremise et l'introduction, l'assistance d'un troisième terme, qualifiant. Troisième terme qui exprimerait et me permettrait de boucler dans ma conscience et mon esprit, en mode conscience, unité, espace-temps, et d'exprimer que je me trouve en face de quelque chose ou de quelqu'un, ou comme de pouvoir l'exprimer et me l'exprimer nommément. Or, cela échoue et va échouer pour plusieurs raisons, mais on ne peut pas, absolument pas, ajouter ce troisième terme. On ne peut pas ajouter non plus, il ne suffit pas de dire et réciproquement, de faire cette espèce de culbute et pirouette. Et bien que ce soit et puisse être une donnée d'expérience sensorielle. Mais évidemment, il ne suffit pas de le qualifier par ce genre de pirouette de vocabulaire. Mais la chose ne peut pas être totalement formulée dans son enveloppe et sa circonvolution, comme pouvant être tournée vers moi et de mon côté, et comme vis-à-vis de moi, et comme pouvant formuler totalement l'écran des choses dont il s'agit. Et le terme de part de vers soi, très mental et très littéraire, n'aidera pas. La chose est donc extrêmement intéressante à penser et à considérer. Il me faut ou il me faudrait au moins donc trois mots, trois termes pour qualifier ce dans mon esprit comme fixé et stationnaire, le fait en question dans un point qui aboutirait à une satisfaction totale de la description et de la pensée, ou ce qu'on peut appeler la respectivité, et cela de ma place ou de ma position. Ou de ma position bien constituée, de ma perception image mentale et de ma perception bien posée en ma propre présence, conscience et présence de corps. Et en cherchant dans ma formulation, qui cherche à traduire, qui cherche à exprimer, à expérimenter, à assembler, et tout cela dans une unité de temps et de conception de temps et de conscience de temps, je trouve bien des expressions comme je l'ai déjà dit en revenant comme focus, comme caractéristique. Pour formuler. Et la notion de revenir sur des données et nommément mentionnées et déjà comme considérées comme vraiment pleinement formulées est aussi une notion intéressante comme conscience du temps et de ses dimensions et voire de ses unités. Et comme aussi étant immobile, moi, face à l'idée que je veux formuler, comme dans une position temporo-spatial, je dirais. C'est-à-dire, je l'ai déjà mentionné, ce que j'appelle les étiquettes mentales, voilà, et qui sont comme des découpages de conscience et d'unité espace-temps, c'est-à-dire les notions de vis-à-vis et de face-à-face, comme déjà désignées, comme je l'ai déjà exprimé pour l'exprimer vers d'éventuels auditeurs. Mais la troisième est manquante, où elle se dérobe. Quel que soit le terme que je cherche pour le compléter, il en faudrait un troisième, un quatrième, peut-être un cinquième, pour partir dans une forme de description qui se justifierait et s'empilerait. Et comme donc un seul, en tout cas, comme perspective, le terme de perspective lui-même ne suffirait pas. Et donc comme un épuisement de la notion par la conscience et le temps. Et je suis intéressé par cette insuffisance de conjonction dans l'espace-temps et d'en retirer quelque chose, et comme une leçon, une forme d'expérience, même si elle apparaît comme un peu abstraite et immobile. Et à quoi je dois de pallier, et cela de plusieurs façons dans la réalité mentale que je ressens et que je pressens. Mais il faut déjà remarquer en quelque sorte comme la nécessaire obligation. Je peux envisager qu'il s'agit d'un défaut d'idée ou de vocabulaire, par exemple, ce mot qui se déroberait dans mon esprit pour clore et mettre un point final suffisamment d'arrêt dans la pensée, dans la description, et donc, et qui pourrait formuler. Je peux le penser comme cela, mais je pense que j'aurais tort de le penser car je basculerais dans l'imagination, que ce soit comme cela, que cela puisse être la spécificité du mot manquant comme imaginaire ou imagination. Bien qu'on puisse à partir de là fabriquer un certain nombre de choses. Je remarque que je peux bricoler un tiers terme, comme par exemple dire que c'est un X qui demande de donner des précisions en plus, etc. Et éventuellement, ne pas définir ce que cet X serait s'il pouvait être pleinement satisfaisant, comme pouvant décrire ces espèces d'items que j'essaye de clôturer et de bien décrire. Mais si je dis oui, et c'est comme par exemple être en perspective, et je vais continuer par le par exemple du par exemple du par exemple, et comme chacun étant en face l'un de l'autre et en face de la présence de soi en train d'être en présence de ceci ou de cela. Je décris des espèces de surfaces miroirs comme en vis-à-vis qui sont de part et d'autre mais qui ne se rencontrent pas. En fait, la carence en question, si j'y suis attentif et en forme de réalité, de consistance et de pensée et de bonne perspective et sensation et pas comme en face d'une sorte de trou noir, est due à une autre raison, de mon point de vue, de type constante. Une raison de données qui est réalisée par le temps, la consistance et le temps, et même la consistance qui nous lie avec la capacité d'éprouver dûment des perceptions et des sensations. Et cela dans le cadre des réalisations de ces données proches et sensibles. Soit des unités physiques de type matériel, réalisées par le temps, dans sa constance ou sa fixation des données, voire son déroulement propre dans sa réalité et sa force d'écoulement. Ou de façon plus générale, la chose est liée aux unités matérielles et physiques réalisées dans le temps et la conscience du temps des choses, et dans le cadre des données sensibles et de leur matérialité, ou à partir d'elles, ou devant revenir sur les récepteurs que nous sommes. Ou dans le cadre des réceptions sensorielles que nous pouvons avoir, former ou recevoir. Et cela parce que, en fait, alors que je passe mentalement de l'autre côté, en quelque sorte, de ma conscience d'être de mon côté, et de deux façons, soit en construisant à partir de mes perceptions, sensations, du semblant, de l'évocation, de la simulation, en référence propre, et alors je m'éloigne dans la présence physique et du temps, pour évoquer et décrire, éventuellement exporter. C'est une voie évidemment intéressante à explorer et à prendre en compte. Soit je suis obligé de regarder expressément comme ce que j'ai devant moi, et je dirais comme le bout de mon nez, de l'autre côté, et comme au-delà de moi, et donc aussi de ma ligne de présence, en réponse des pensées ou des commandements implicites qui me traversent l'esprit ou qui sont induits par le fait des présences ou par les communications que je reçois et la manière dont je les reçois. Je peux avoir une vision de l'autre côté, à partir de cette vision et de ce constat comme stationnaire, géostationnaire et de façon physique et sensorielle, mais je dois l'assumer. Je dois alors penser et traduire cet autre côté comme de l'autre côté, pour me sentir, pour me poster, pour me poser, pour me poser, pour me sentir physiquement dans mon enveloppe et ma position réelle, vraiment, comme vis-à-vis ou en face d'eux, tout en étant et en restant de mon côté, et de façon plus ou moins pleine, ou plus ou moins consistante et réussie. Et on retrouve cette complexité si on pense quelque chose à partir du dehors, en lui donnant son code de réception, en image et perception, auprès de soi et près de soi. Et que ce soit en réalité ou comme en semblant, on peut regrouper l'ensemble de ces données sous le terme de code de lecture. C'est bien pourquoi il faut fixer le miroir mental, plus ou moins grand, dans ce qu'il met de son côté, ou vers soi, en perspective, en étendue, ou en mode perspective et mode de message, et message contre message, comme un tableau qu'on aurait accroché au mur, ou un cadre. Et on se retrouve avec une question très intéressante concernant une théorie qui prend en compte la proximité ou la distance. Et c'est pourquoi je développe une théorie de la perspective et de la traduction. Et on peut aussi considérer que cette forme de théorie et de prise en compte et de traduction associée, le sensoriel et la dimension ou l'image du vis-à-vis jouent là un rôle important. De même que l'image et la conscience du visage, mais ce coup-ci d'autrui. De même que la notion ou la dimension du message à distance comme théorie du décodage du message, du proche ou du lointain et de la réception. Présence, conscience et fonctionnement mental, séquence 6. Présence dans les formes de conscience. Je vais reprendre comme si un miroir était toujours devant soi, comme tendu, prêt à l'être et comme interrogateur de présence ou de conscience. Un miroir de conscience mentale et de messages qui s'assemblent et se constituent comme en perspective devant soi et se mettent en route et en sa présence dans la réalité de l'espace-temps et de la présence qui est celui de sa présence ou des communications. Et qui nous met en tant que présence et conscience, le tout assemblé, comme une sorte de moteur mental dans ce qui est rendu présent et dans ce qu'il rend présent, cette espèce de grand miroir de présence, et assemble en présence de nos formes et présences mentales les contextes du moment, ou encore tels qu'elles se présentent et représentent à notre esprit. Il serait intéressant d'examiner ces données de la représentation, de la formulation même implicite de nos contextes. Mais là, je ne le ferai pas, en tout cas pas maintenant. Et les données dans leurs assemblages renvoient à un autre miroir mental de type codeur et décodeur, et en fait plus distant et plus grand en apparence, ou plus proche. Dans ces résultats, dans ces traductions, que le premier à quoi nous sommes connectés, et qui a aussi ses formes de réalisation et de constance, et qui, dans sa connexion, les traductions présentielles, est celui en quoi ou par quoi on décode, on expérience, on reçoit nos messages de conscience, de perception et impression, et comme grandeur nature. Ce miroir mental, comme réalité, comme institution, dirais-je, demande lui encore une radicalité de plus ou autre dans les codages, dans les décodages, dont ceux qui sont implicites. Je vais construire alors encore un peu par palier et comme on construit en biais ou à reculons pour prendre les choses un peu plus en perspective ou les mettre un peu plus en concret, en mode concret ou sensible. Je vais ceci étant faire une aparté, puisque cela vient assez courte, parce que je pense d'un seul coup au terme de définition et perçois qu'il me fait rire, et je veux communiquer pourquoi ce qui me fait rire en cette notion est la pensée suivante qui a surgi. C'est que si on savait ce qu'on dit et où ce qu'on pense, au départ, on ne le dirait pas, ou pas la plupart du temps, ou on pourrait s'en dispenser. Voilà donc un autre réel réel, en forme d'impossible, l'impossibilité, qui est aussi à prendre en compte. Car il faut aussi dire ce qu'on pense par ailleurs pour en être conscient, mais qui aussi, pour être mis en conscience et en présence et en forme de résonance avec ce qu'on pense et comment et pourquoi et ce en quoi on peut en tenir compte. Et là encore, on a une forme de conscience-image ou message-image et de conscience de type miroir qui est à constituer, qui est à formaliser, qui est à prendre en compte et qui est implicite ou explicite. Et aussi, la présence est le signe d'une connexion et d'une relation. Cette conscience image et message, et qui est aussi son inverse, se propage à partir du mot ou de l'idée qu'on veut communiquer ou avec laquelle on rentre en relation, résonance, où on veut rentrer en relation. Celle-ci, disons cette idée, sert alors ou fait office de code miroir ou de définition dans son ensemble, mais aussi de code et de conditions d'expression au dehors, et là, de façon bien exprimée comme littérale, n'est-ce pas? Au dehors. Là, je dois m'arrêter, car il faudrait développer ce thème selon deux faces ou deux surfaces qui divergent et se disjoignent, à savoir en mode interne et en mode externe, avec des résonances et à partir du même receveur ou du même émetteur. Présence, conscience et fonctionnement mental, séquence 7. Code de miroir, code de présence. Voilà, je termine cette longue séquence de considération sur la présence, la conscience et le fonctionnement mental comme un tout assemblé par les considérations suivantes. On peut encore penser un code miroir et de définition et de présence implicite, ou je dirais code de transversalité. Par exemple, quand vous êtes en présence de quelque chose ou de quelqu'un, vous êtes en mode de code de message de sa présence, de façon plus ou moins implicite, consciente ou pas, en mode de code miroir, et en mode d'effet de sa présence et rapport à cette présence. L'ensemble de la présence et la perception qu'elle constitue est une image et une forme d'image émettrice. Et vous en êtes le récepteur tel que vous êtes et à votre façon. Et il est bon de réaliser la présence et la modalité, ou même plus, le type de présence ou de modalité qu'elle réalise auprès de vous et pour vous, et dans votre mode de présence, ou de difficulté de l'être, ou plus ou moins d'absence, et de façon plus générale, dans votre code de réception. Et de là, il y a encore beaucoup à tirer sur les modes de présence et de conscience miroir, et leurs échanges implicites, et leurs modes parallèles, voire leurs mondes parallèles. On peut les concevoir comme des présences, par exemple, de prégnance ou d'induction, qui agissent sur vous dans la présence, mais aussi dans la distance et dans l'espace-temps. Et donc, il est bon de s'aviser, car il faudra ne pas seulement comme les agir en retour ou en mode de surprise, décharge émotionnelle, etc., mais en produire des formes de capacités ou des compétences ou des capacités de réalisation dans vos modèles propres et internes. Ou encore, on peut les concevoir d'un autre côté, comme de l'autre côté, justement, comme présence, comme des présences et des modes de présence qui sont en partie ignorés, mais des parties de présence de vous comme étant ignorées sur l'extérieur ou dans vos façons d'être présent ou dans vos codes de présence ou sur la manière dont vous êtes présent en réalité, en présence physique ou en mode d'esprit par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Voilà des espaces intéressantes à considérer. Et les positions ou situations, les deux là que je viens d'évoquer, comme différentes, demandent à se conjuguer, à l'être dans la conception des modes de rapport et des influences et de leur climat tels qu'ils sont réalisés, même en mode muet. Et cela en mode d'échange et d'implicite, qui dans un certain parallélisme de temps de réalisation, de constance, ont leur réciproque, voire leur réciprocité. Et là, on entre dans un autre domaine, à savoir un niveau de conscience beaucoup plus large et des capacités de conception comme à distance et comme pouvant continuer à se dérouler dans l'espace et dans le temps. Et cela, au-delà des faits et des présences assemblées dans les présences corporelles, les présences des choses et des présences des personnes. Et c'est là que se tient le niveau, les capacités en fait de réaliser, de comprendre, de connaître ou de considérer, mais sur un mode, je dirais, respectif, et je me permettrai d'inventer le terme de conceptif. Je dois m'arrêter là, sur les fonctions du corps, comme traducteur, à différents niveaux, traducteur présentiel, quitte et traducteur en mode de représentation et de latence de l'esprit, quitte à reprendre le développement de cette question ensuite.